Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau Zoomcast numéro 11. Nous sommes donc le 12 janvier et il est un peu plus de 21h. Voilà, c'est toujours cette nouvelle formule hein, du Zoomcast, hein, donc en live et surtout avec le chat qui est ouvert. Vous pouvez y accéder sur edencast.fr/live. Et il y a également un sondage qui est disponible sur cette même page auquel vous pouvez participer, un sondage qu'on commentera durant ce Zoomcast. Pour participer à ce Zoomcast avec moi, je suis en compagnie de Juliette. Bonsoir Juliette.
Et bonsoir Kevin, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien pour ce nouveau Zoomcast. En tout cas, nous on est là en pleine forme, comme d'habitude.
Comme d'hab.
C'est ça.
Au taquet. Et on en profite aussi pour leur souhaiter une bonne année à tous ces gens.
Mais oui, d'ailleurs, bonne année à tous. Hein.
Bonne année à tous, ouais. Il y a Meb aussi avec nous. Salut Meb.
Ouais, salut à tous. Salut à tous, salut Kevin. Et ouais, meilleurs vœux à tous. Ouais, la santé, comme tu dis, s'il y a un vœu à souhaiter, c'est la santé.
Bah oui, c'est pour ça que j'ai insisté.
Le reste, voilà, on s'en fiche.
On s'en moque.
Ouais.
C'est vrai, on s'en moque un peu.
Bah parce que sans la santé, rien n'est possible. Tout simplement.
Mais c'est pour ça, ouais, voilà.
Eh oui.
Bonsoir Jean-Philippe de Linux. Notez bien la particule, comme d'hab.
Salut Kevin, salut à tous. Et pour en plus, bon, c'est ma première 2017 en plus hein, sur Edencast.
C'est ta première, ouais.
Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente année avec certes la santé, mais pas que, la sérénité aussi, parce que c'est important, avec l'épanouissement, parce que tout ça est un peu lié. Alors certes, sans la santé, on fait rien, mais sans l'épanouissement, on n'a pas la santé non plus. Donc,
quel philosophe.
Tout ça est un peu lié, donc voilà, bonne année à
philosophe
tous.
Philosophe à souhait.
Plein de joie, de réussite, bref, de tout ce que vous avez envie, voilà.
Alors, ce Zoomcast, vous avez commencé à avoir un petit peu l'habitude, hein, il est composé en trois parties. Pour la première partie, on va revenir un petit peu sur le forum, voir un petit peu s'il y a des petites choses qui nous ont marqué ou pas. Enfin, en tout cas, Juliette qui va faire un petit focus rapide sur le forum. Ensuite, on enchaînera avec le focus de ce mois de janvier qui est consacré aujourd'hui à l'association Accessi-Jeux, qui est une association qui adapte les jeux de société pour les personnes handicapées visuelles. Donc, voilà, ça permet d'avoir accès à plein de jeux auxquels on n'aurait pas accès, voilà, sans cette association, donc c'est intéressant aussi de faire un petit focus sur elle. C'est Xavier qui est avec nous, qui est son fondateur et son président. Salut Xavier.
Oui, bonjour Kevin. Alors tu me répéteras 10 fois cette association.
Oh, ouais, cette association.
Ravi d'être là parmi vous ce soir. Bonjour à tout le monde. Première pour moi sur Edencast et merci pour l'invitation et ravi de vous faire découvrir l'activité de notre association.
D'autant plus que ça fait écho un petit peu à ce qui s'est passé récemment, en octobre, avec la fermeture de la start-up. C'est plus une start-up, à vrai dire, c'est plus une entreprise.
Et c'est par malheureusement cette mauvaise nouvelle qu'on a fait connaissance.
Voilà, c'est par cette mauvaise nouvelle qu'on a fait connaissance, parce que tu m'avais contacté justement, du coup.
Oui, en fait, c'est un des followers. Facebook d'Accessi-Jeux qui m'avait signalé que tu avais écrit un article sur la disparition de Tom's 3D, qui était un imprimeur dijonnais qui faisait des jeux en braille et avec lequel on travaillait d'ailleurs. Et en lisant ton article, j'avais vu que tu disais que bah, désormais, il n'y avait plus d'autres solutions. Et je t'ai dit, mais si, il y a nous.
Disons qu'il n'y avait plus de solutions au niveau des entreprises, je voulais dire par là.
Ouais, ouais.
Je rappelle que vous pouvez toujours voter parce qu'on le fermera à la fin du Zoomcast, hein, le sondage. Et ce sondage, il parle, c'est surtout les aides techniques, en l'occurrence, quelle est votre aide technique favorite? Vous pouvez toujours participer à ce sondage jusqu'à la fin du Zoomcast, et c'est sur edencast.fr/live. À toi Juliette, pour le forum, du coup.
Je reviens donc sur le forum. Il y a eu beaucoup de messages ce mois-ci en rapport avec la vie quotidienne, que ce soit les recherches de bracelets connectés, d'hydromètres. Les gens recherchent de façon générale beaucoup d'objets connectés qui soient accessibles.
Ouais, c'est...
Et il y a eu surtout, en particulier, beaucoup de messages sur la cuisine, que ce soit les techniques de cuisine, par exemple, pour faire les crêpes, ce qui n'est pas forcément évident pour nous. Et puis, il y a eu aussi Manon qui a eu l'extrême gentillesse de nous proposer de partager son expérience avec son nouvel achat, qui a été le robot Magimix Cook Expert. Et donc, elle s'est proposée d'ouvrir une discussion sur laquelle elle a détaillé toute sa première expérience en fait avec le robot, le déballage, ses premières utilisations, et du coup ça a donné envie à d'autres utilisateurs de l'acheter.
Donc, et l'écran tactile aussi, parce qu'il y a un écran tactile en plus dessus.
Je ne sais pas s'il y a un écran tactile, en tout cas
je ne crois pas.
Non. Elle a dit que tout était réglable avec des boutons, etc.
En tout cas, elle a dit que c'était accessible.
Voilà.
Donc, ouais, parce que maintenant, ils commencent à faire ça aussi dans les éléments de cuisine, avoir des trucs tactiles.
Justement, elle l'a choisi, celui-ci, parce qu'elle a dit qu'il était vraiment accessible et qu'il était utilisable, même par des novices comme nous, qui avaient un handicap. Donc,
même pour des gens qui ne sont pas doués en cuisine.
Voilà. Donc du coup, elle a détaillé toutes ses premières utilisations. Même Sarah a contribué aussi. Donc il y a une discussion très intéressante à lire et on la remercie pour cette initiative.
Un grand merci à Manon pour sa gentillesse et pour ce retour d'expérience qui pourra aider pas mal de gens. Parce que du coup, souvent on voit c'est vrai que dans les avis sur les robots et tout ça, on voit des retours mais des voyants. Donc nous, on peut pas vraiment juger du produit, de la qualité du produit pour nous et surtout son accessibilité. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment sur le forum. Là, Manon, elle a fait vraiment un super boulot parce que elle nous a vraiment détaillé quand elle l'a déballé,
point par point, de comment faire.
Quels sont les éléments qu'on trouve dans l'emballage et comment ils sont situés les boutons et tout. Donc, il faut jeter un petit coup d'œil sur le forum. Ça pourra peut-être.
D'autant que quand il s'agit d'appareils à des prix relativement élevés, on aime bien avoir un retour de personnes qui l'utilisent à notre façon, si on peut dire, avec le handicap. Donc, très intéressant.
C'est vrai qu'il n'est pas donné en plus. Hein.
Ah non, ça.
Donc, et puis il y a Sarah aussi qui nous a donné quelques informations, quelques astuces aussi de son cru. Et puis, sinon, on rappelle aussi comment utiliser le forum, hein, Juliette. Comment est-ce qu'on peut ? Il faut s'inscrire ?
Eh bien oui, tout simplement, pour utiliser le forum, vous devez disposer d'un compte membre, je vais y arriver, sur Edencast, et vous pouvez y accéder via la barre des menus, via l'onglet forum.
Après ce petit retour sur le forum, on va revenir brièvement sur ce sondage qui concerne les aides techniques. On a vu notamment qu'il y a un sacré fossé hein, entre les deux et les deux premières et les deux dernières. Je suis pas sûr que ça va évoluer de manière significative, flagrante entre d'ici là, mais on sait jamais. Ils en sont à combien là les scores Jean-Philippe.
On est à 214 là, ça a pas bougé depuis tout à l'heure et les scores
215 ou 214.
Non, il n'y en a que 215. La répartition, du coup, n'a pas changé. Hein. 40% préfèrent la canne blanche, 38% le chien, ce qui n'est pas très surprenant, tout ça est assez égal. Et puis, par contre, 12% en canne électronique, c'est déjà beaucoup, d'ailleurs, par rapport à ce que vous pouvez imaginer. Ah, et 10% seulement préfèrent se faire accompagner. Ça me paraît correspondre au type d'audience de Dreamcast.
Ça reflète un peu.
Je trouve.
Ah, j'étais étonné un peu pour la canne blanche, enfin pour la canne électronique, parce que je me disais, bon, ça va être sûrement 4, 5%,
2%. Non, c'est... Après, en fait, dans les cannes électroniques, je pense qu'on doit mettre aussi tous les Tom Pouce, les Ultra... Non, l'Ultra Canne, évidemment, mais pas que, parce qu'il y a...
Non, mais il y a tout est compris dedans.
Tous les systèmes, ouais. Donc du coup, ça serait intéressant d'ailleurs de savoir, dans les 12%, qui a quoi, en fait, parce que c'est vrai que... Ouais, ça peut être intéressant finalement.
De toute façon, le sondage il est en fil rouge, donc on reviendra dessus tout à l'heure. Un petit focus sur le chat, Juliette, Jean-Philippe, qu'est-ce qui se passe? Il y a du monde
Il y a du monde. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment l'Isis, c'est resté à la question du afficheur braille. D'autres qui sont plus Easy Time. Puis il y a eu une réaction de Sarah qui confirmait bien qu'évidemment l'appareil dont on parlait tout à l'heure n'était pas tactile, mais
il est pas
tactile. Sans ça, c'était pas.
Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Et puis on salue hein, tous les gens du chat. Sachez que pour vous connecter avec nous sur le chat, c'est sur edencast.fr/live. Et si vous avez un compte membre, vous pouvez vous connecter et discuter avec nous, ou alors via l'application mobile sous iOS. Donc l'application Edencast, à l'onglet extra, vous pouvez aller sur le chat aussi par ce biais. Alors on va passer au focus maintenant, les amis, avec cette association. Hein, Xavier?
Il n'y en a qu'une, hein, il n'y en a pas cette précise.
Ouais, Jingle Focus.
C'est un clin d'œil.
Focus.
Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer cet asso? D'habitude, je demande aux gens l'origine du nom, mais là, il est tellement flagrant que je ne vais pas te le demander.
Oui, bah écoute, ça a été 15 ans de recherche pour trouver un nom qui puisse réunir accessibilité et jeu. Et donc, accessi-jeu, c'est assez naturellement. Non, en fait, bon, moi, personnellement, mon parcours, il est celui d'un... Bah, je suis donc malvoyant, je ne suis pas non-voyant, j'ai une rétinite pigmentaire, donc bah, comme beaucoup de vos auditeurs doivent savoir, ma vue ne va pas en s'améliorant. Hein. Et en étant... Donc moi, ma carrière professionnelle jusque-là, c'était dans la musique. Pendant 15 ans, j'ai autoproduit une carrière de chanteur. Peut-être certains me connaissent pour la chanson du Bigleux, qui a son petit succès dans le milieu des déficients visuels. Si vous ne connaissez pas, allez l'écouter sur Deezer. C'est une chanson dans laquelle je parlais des tracas de la vie quotidienne d'un malvoyant avec humour, avec un peu autodérision. Et puis, bon, j'ai fait ça pendant 15 ans, j'ai produit 4 disques et j'ai eu face à un peu le... Bon, disons une petite période, pas de découragement, mais enfin, je veux dire, c'est l'autoproduction, c'est quand même compliqué de nos jours. Il y a des facilités, c'est sûr, c'est plus facile d'enregistrer un disque à l'époque de Mozart, mais à côté de ça, les maisons de disques ont été rachetées les unes après les autres, les gens téléchargent, et voilà, quand on est son propre patron, qu'on doit payer des gens, du coup, bon, voilà, ça, j'ai vraiment remis en cause un petit peu ça il y a 3 ans, en gros. Puis je me suis dit, si je mets un peu la pédale douce sur la musique, qu'est-ce qui me reste à côté? Eh bien, à côté, il me restait ma passion pour le jeu. Je suis passionné de jeu depuis que je suis tout petit. Étant devenu papa, j'ai replongé dans les jeux de société. Et là, j'ai découvert qu'il y a une quinzaine d'années, le jeu de société avait vraiment avait pris un grand virage avec environ un millier de jeux de société créés chaque année dans le monde. Et des jeux vraiment avec des mécaniques modernes qui ne reposaient pas uniquement sur un lancer de dés, et j'ai fait 1, j'avance de 1, j'ai fait de 6, j'avance de 6. Des jeux modernes, intéressants, avec des prises de décision, de la stratégie. Je suis devenu vraiment accro à ce qu'on appelle aujourd'hui les jeux modernes. Et j'ai donc commencé à essayer un peu d'y mettre aussi mes amis autour de moi, hein. Les adultes, on n'était pas ados hein, quand on s'y est mis. Le jeu de société, ça concerne vraiment les adultes. Et bon, j'ai une petite bande de copains qui est tombée dedans. Et bah, forcément, moi, j'ai été vite confronté au problème de l'accessibilité. Alors, je lis avec une vidéoloupe, donc pour certains jeux, voilà, fallait tout de suite que j'aille, que je trouve une prise. S'il n'y avait pas de prise à côté, il fallait que ma vidéoloupe soit chargée, qu'il y ait une batterie. Sinon, qu'il y ait une bonne lumière, et puis de toute façon, je saccageais le jeu en prenant des marqueurs et en faisant des gros repères dessus. Et puis, bah, au sortir d'une soirée avec des amis, on s'est dit, mais bon, voilà, ce problème que tu as, Xavier, tu dois quand même pas être le seul bigleux à aimer jouer, c'est pas possible. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? Donc là, évidemment, on a commencé à regarder un petit peu, on a vu Tom's 3D, on a vu que le site de Cessia et de la VH vendaient des jeux, les jeux de Tom's 3D en l'occurrence. Bon, à des prix quand même assez élevés, mais il y a des explications à ça. C'est que Tom's 3D n'avait pas particulièrement de partenariat avec les éditeurs de jeux, donc ils allaient acheter les jeux dans les grandes surfaces, et derrière, ils faisaient leur travail, ils rajoutaient le braille, il y avait donc la matière première, il y avait la main d'œuvre, tout ça, voilà. Ce qui fait qu'on arrivait à des jeux de Scrabble à 100 €, quoi. Bon. Alors nous, on s'est dit, bah, ça serait bien de trouver des solutions qui permettent à la fois de rendre les jeux de société accessibles à tous et en même temps de lutter contre cette discrimination face au prix qu'on a tous en devant toujours adapter notre quotidien avec des objets plus chers les uns que les autres. Donc ça a été un peu les deux postulats de départ de l'association et aujourd'hui, on est en mesure de proposer des solutions mais qui répondent à ces deux interrogations.
Alors, première question. Jean-Philippe ou Juliette ou Meb.
Est-ce qu'il y a déjà des enjeux qui ont été définis pour tout ce qui est droit? Parce que évidemment, tout ça, ça reste quand même de la reproduction. Est-ce que les éditeurs en sont conscients? Est-ce qu'ils sont partenaires? Comment ça se passe vis-à-vis des éditeurs de ces différents jeux de société du coup?
À titre personnel, je fréquentais déjà le monde du jeu depuis un petit temps en tant que créateur. Une fois que, enfin, créateur un jour, créateur toujours, c'est-à-dire que je créais des chansons, mais je créais aussi des jeux. Et donc, c'était mes petites récréations d'aller dans les festivals et de présenter mes jeux à des concours. Et donc, par ce biais-là, j'ai pu commencer à créer un peu mon réseau dans le monde du jeu, et donc à rencontrer directement les éditeurs. Ça, dans le monde de la musique, vous allez nulle part à un festival ou en tant que enfin, c'était pas simple visiteur parce qu'en l'occurrence, j'étais quand même sur des stands réservés aux créateurs, mais on rencontre pas tous les mecs des maisons de disques d'un seul coup dans un festival. Là, le monde du jeu, c'est un monde. Bon, c'est pas bisounours, il y a des enjeux commerciaux derrière, mais c'est un monde où les gens se connaissent, se fréquentent. Ont plaisir à se retrouver. Si vraiment on est accro, on peut aller à un festival de jeux de société tous les week-ends. Hein. Il y en a vraiment partout à travers la France. Donc voilà, c'est vraiment une communauté. Et donc j'avais déjà quelques contacts dans ce monde-là. Et naturellement, bah, dès qu'on a monté l'association, ça a été nos interlocuteurs privilégiés dès le début. J'ai directement été voir les chargés de communication. Des plus gros éditeurs français. Alors je vais les citer parce qu'ils nous ont fait confiance et c'est pas pour faire remercier mes partenaires, machin, etc. Ben, j'ai aucun rien qui m'oblige à le faire. Mais c'est important de dire quand même que quand des sociétés font des efforts pour l'accessibilité. Donc notamment les deux premiers ont été la société Yello et la société Gigamic. Et eux, quand je leur ai présenté le projet, ils m'ont dit, mais super, nous, c'est vrai que des gens nous parlent de daltonisme, de problèmes de couleur, etc. Mais on n'a vraiment jamais pas vraiment poussé la réflexion au-delà de se dire est-ce que le jeu est accessible à un non-voyant? Parce que finalement, bah, personne n'est venu nous le demander, quoi.
Mais
Et pour
en tout
cause,
cas,
ce.
les éditeurs, ils sont pas insensibles à ça, c'est déjà.
Eh ben, du tout. En fait, ils sont même super prêts à nous aider. J'expliquerai plus tard. Comment dans la démarche, enfin, c'est principalement en nous offrant des jeux nous permettant de faire des tests pour les adapter. Mais je dirais que ils ont, enfin, pourquoi ne le feraient-ils pas, le feraient-ils pas, quoi? Ils ont forcément tout à y gagner en termes d'image, en termes de plaisir que leur jeu soit accessible à un maximum de personnes aussi. Et puis, bah, si jamais nous, par l'association, on leur amène X clients de plus, ils auraient tort aussi, quoi.
Ok, et du coup, l'autre question qui était intéressante, c'est quoi concrètement qui distingue cette association, enfin en tout cas les jeux produits par cette association, de ce qui était produit avant par l'entreprise en fait? C'est une technique différente, c'est une approche différente. Est-ce que c'est finalement les mêmes procédés de fabrication? Ceux qui ont acheté par exemple des jeux auprès de cette entreprise, qu'est-ce qu'ils gagneraient ou qu'est-ce qu'ils vivraient de différent en ayant recours aux jeux que produit votre association, du coup?
Alors, pour ce qui est des techniques, on a une technique en commun avec ce que faisait Tom's 3D, c'est l'impression en relief, en résine, transparente. C'est le type d'impression qu'on retrouve dans les musées, etc., pour les plans tactiles, toutes ces choses-là. Donc, c'est des reliefs légèrement surélevés. Alors, Tom's 3D, ce qui nous différencie vraiment de ce qu'ils faisaient, c'est que Tom's 3D, ils adaptaient les jeux en braille. Or, les chiffres de nombre de personnes lisant le braille en France, c'est 10 000 pour 1,7 million de déficients visuels. Donc, ce qui va nous différencier d'eux principalement, c'est que nous, on va proposer des adaptations tactiles, mais pas forcément en braille. Parce qu'on n'a pas les moyens de faire du braille en résine sur toutes les cartes, c'est un peu compliqué, mais pour que le jeu revienne à des coûts raisonnables. Autant on peut imprimer en série nos pictogrammes carrés, triangles, ronds, croix, etc., qui nous permettent de faire des codes, autant on ne peut pas se permettre sur un jeu d'aller chez l'imprimeur pour imprimer tout ça en braille. Ça coûterait trop cher et ça ne correspondrait pas à ce qu'on veut faire de démocratiser un peu le prix des jeux adaptés. Mais donc au niveau des techniques, on est sur la même chose, on est sur de la résine transparente qui font que les personnes valides qui jouent avec nous n'ont pas l'impression de jouer avec un jeu réservé aux bigleux, c'est vraiment un jeu où on préserve les graphismes des cartes pour les personnes valides qui jouent avec nous. Et voilà, et du coup, la grande nouveauté, je pense, c'est on n'a pas réinventé le braille, mais bon, on a inventé un système de code qui permette. Alors, on explique ça avec des règles audio pour les personnes qui ne pourraient pas lire les règles dans les boîtes qu'on vend, parce que je vous expliquais après qu'on vend les jeux aussi, les bénéficiaires trouvent un CD audio qui va leur dire les règles, qui va leur expliquer les adaptations.
Question de...
De Sarah. Ouais. Qui voulait savoir s'il y avait aussi des adaptations pour les jeux premier âge.
Eh ben en fait oui, depuis peu donc on a contacté ABBA et Djeco qui sont les deux éditeurs phares du jeu pour enfants. Alors quand je dis on est partenaire avec un éditeur, ça veut dire qu'en fait ils nous envoient les boîtes qu'on réclame pour pouvoir faire nos tests. C'est-à-dire qu'on a réuni des bénévoles de l'association dans notre local et on fait des adaptations. Après, on teste les jeux avec le public pour lequel c'est destiné. Et si c'est concluant, après, on le met en vente sur la boutique en ligne de notre association qui est réservée à nos adhérents. Les jeux sont au même prix que dans une boutique traditionnelle, mais il faut quand même s'acquitter d'une adhésion annuelle.
Ouais, voilà, il y a une adhésion en plus pour pouvoir bénéficier de l'adaptation du jeu, en l'occurrence.
Voilà, donc si vous en achetez un jeu, comme l'adhésion est à 30 euros, vous aurez l'impression d'acheter votre jeu avec plus 30 euros. Mais si vous êtes des parents et que vous avez un enfant déficient visuel, et que vous lui achetez deux jeux à Noël et deux jeux à son anniversaire, c'est rentabilisé, quoi.
On avait une autre question aussi, Jean-Philippe, je crois, sur le chat. Enfin, pas qu'une, d'ailleurs.
Ah, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Je vais commencer par une anecdote, enfin une anecdotique. En tout cas, est-ce que vous faites le Monopoly?
De Vincent, c'est Vincent qui demande ça.
Ouais.
Sur le chat.
Alors, je dois bien vous avouer que le Monopoly, c'est clairement pas le jeu sur lequel on s'est rué dès qu'on a monté l'association, parce que c'est l'archétype du jeu qui aujourd'hui pour nous a très mal vieilli. Le Monopoly, il a 70 ans et il repose sur la seule mécanique de jeu qui existe, c'est je lance mon dé, j'avance, je tombe sur une carte, j'achète pas. Sinon, 100% du hasard. Et aujourd'hui, nous, on est plus intéressés à faire découvrir les jeux modernes des éditeurs français et étrangers, parce qu'on n'est pas que partenaire avec les éditeurs français. On est aussi ABBA, que je citais tout à l'heure, pour les enfants et allemands. On est partenaire avec Ravensburger aussi. Voilà, il y a plein de manières sympas de s'amuser avec des jeux qu'on trouve pas forcément dans les gros magasins de jeux, parce que dans les gros magasins de jeux, c'est comme dans les grosses radios commerciales ou comme dans les grosses librairies. On trouve que ce que les gros éditeurs arrivent à placer en magasin. Il y a tout un vivier de petits éditeurs et de jeux qui sont très sympas, qui sont à découvrir. En parallèle aux boutiques style La Grande Récré, Jouet Club, etc., il y a principalement dans les grosses villes, je pense, mais il doit aussi y en avoir dans des villes un peu plus petites, des magasins spécialisés de jeux de société. Et dans ces magasins-là, c'est des magasins qui sont dans la mouvance du jeu de société moderne. Et vous ne trouverez jamais un Scrabble, jamais un Monopoly et jamais un Cluedo dans ces magasins-là. Vous allez plutôt trouver les jeux que nous, on adapte, les jeux qui sont primés dans les festivals ludiques qu'on trouve dans toute l'Europe et dans le monde entier. Voilà, il y a vraiment un secteur parallèle à ce que les gens imaginent qu'est le jeu de société. Le jeu de société aujourd'hui, ce n'est plus le Monopoly, ce n'est plus le Scrabble. Même s'il y a des gens qui vont me dire « Mais oui, mais moi j'adore jouer à ça. » Mais moi j'ai envie de leur dire ben, « D'accord, mais si vous aimez jouer au Cluedo, allez essayer tel ou tel jeu d'enquête qui a été fait cette année. »
Cette année, ouais. Il faut essayer de viser un peu la modernité, tout ce qui est récent, tout ça, quoi.
Voilà, voilà.
D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à Quentin, qui est l'administrateur et le concepteur de la plateforme en ligne Le Salon, et qui est sur le chat aussi, qui est là. Donc voilà, coucou à toi, Quentin.
Et du coup, l'autre question qui se posait, c'est le principe, c'est des jeux en vente, du coup, ou c'est aussi un concept de ludothèque, en fait? Enfin, comment ça, c'est que de la vente, en fait?
Jusque-là, on était uniquement boutique en ligne, parce que c'est collé à une école, et avec le contexte de terrorisme, etc., on ne pouvait pas recevoir des gens dans notre local, donc on est parti sur un système boutique en ligne. Mais notre convention s'arrête là, à la fin du mois de janvier, et donc il a fallu, avec l'aide de la mairie, trouver une solution pour notre départ de la pépinière. Et donc, une semaine, 15 jours, on va avoir les clés de notre nouveau local, qui va se situer dans le quartier Bercy-Charenton, du Bercy Village, et on va ouvrir, en même temps que notre local, qui va donc s'agrandir, une ludothèque. La ludothèque du 12e, qui sera donc à la fois un point de retrait s'il y a des Parisiens qui achètent en ligne et qui ne veulent pas payer les frais de port et pourront venir chercher leur jeu à la ludothèque, mais aussi un lieu où les adhérents pourront venir jouer sur place, emprunter des jeux. C'est un point sur lequel on insiste beaucoup. Et ben, être inclus dans la société, quoi, croiser des gens qui viennent pour jouer tout simplement, pas forcément parce qu'ils sont non-voyants, il y aura aussi des valides, il y en aura des jeux qui ne seront pas adaptés. Et puis bah moi, la réussite, si quelqu'un qui est en train de jouer à un jeu très compliqué qui n'est pas adapté, voit d'un coup quelqu'un qui rentre avec une canne blanche, qui prend une boîte, qui s'assoit et qui joue, et puis que la personne au bout d'un moment se dit bah tiens, je vais lui proposer de faire un jeu avec moi. Voilà, c'est dans cet état d'esprit qu'on ouvre le lieu.
Question de Isé, est-ce que vous avez accès à des ludothèques? Est-ce que vous êtes en contact avec des ludothèques?
Oui, alors en fait, justement, c'est un peu notre... c'est un des marqueurs. Quand on a une association, souvent, on fait en sorte d'avoir ce qu'on appelle une mesure de l'impact social. C'est un grand mot, mais c'est pour voir, en fait, si l'activité qu'on a a des effets. Et donc, nous, on a mis en place sur notre site internet une carte qui s'appelle la carte du monde ludique accessible. On a mis le monde parce qu'on ne veut pas s'arrêter à la France, vous voyez, on a des ambitions. Et à mesure que des structures, alors on parle de ludothèque, mais il y a aussi des structures de déficients visuels. Hein, on a le mois dernier, on a vendu aux 9 antennes de l'UNADEV à travers la France des jeux. On a vendu des jeux à différentes associations de déficients visuels, à Voir Ensemble à Chambéry. Et donc quelques ludothèques qui sont adhérentes et qui commencent à nous acheter des jeux. Et ça, c'est vraiment un de nos gros objectifs, c'est de remplir petit à petit cette carte du monde ludique accessible pour que bah, petit à petit, les petites punaises là sur la carte se mettent à droite, à gauche, pour que vraiment faire en sorte que les déficients visuels puissent avoir accès aux jeux dans leur sphère privée, mais aussi dans les lieux publics. Nous, on a le souci que la personne qui achète le jeu ou qui va l'emprunter ou qui va venir jouer sur place dans la ludothèque, l'aspect graphique ne rebute pas les valides. Nous, on est là pour essayer de faire sauter les barrières, quoi.
Et une question pratique et en même temps qui fait appel à ton expérience d'adaptation de jeux. Est-ce qu'il y a des sortes de jeux, des types de jeux qui seraient vraiment inadaptables, en fait? Et quelles seraient les raisons pour lesquelles un jeu serait très, très difficile à adapter?
Alors, j'ai envie de dire, pour partir sur des grands classiques, comme on parlait tout à l'heure du Monopoly, comment adapter une carte de Trivial Pursuit? Mis à part à la photocopier au format A2 ou à faire un petit livret de 5 pages en braille pour chaque carte, tous les jeux qui ont du texte, c'est problématique.
C'est ça. Ouais.
Sauf que, nous sommes en train de... Enfin, grâce à la Fondation de France... et le CCH, qui est un organisme qui fédère différents organismes sociaux. Donc là, en l'occurrence, c'est AG2R, la mondiale, qui nous aide, mais on attend encore un partenaire parce qu'il nous manque un petit peu de financement. On est en train de développer une application smartphone qui va fonctionner par système de QR code au dos des cartes et qui va automatiquement, dès qu'on va passer le téléphone au-dessus de la carte, nous lire en synthèse vocale le contenu de la carte. Entre autres, puisque il y aura d'autres outils d'aide de jeu pour les déficients visuels, comme la gestion des scores. C'est tout bête, mais bon, quand tu fais un jeu où en plusieurs manches et que tu veux noter des points, est-ce que tu vas aller chaque fois aller sortir ta tablette braille ou donc là, il y aura un système très ergonomique et très facile en synthèse vocale pour saisir les scores de tous les joueurs. Il y aura des dés aussi en synthèse vocale. Rien de révolutionnaire parce que tout ça existe déjà, mais sur des applis qui existent à droite, à gauche, il y a des applis de dés, il y a des applis de gestion de score, il y a des applis de QR code. Mais nous, on réunit tout en une seule appli qui va être ergonomiquement étudiée pour les déficients visuels, à la fois en termes d'ergonomie au niveau de l'emplacement des boutons, etc., et de gestion de la synthèse vocale, mais aussi en termes de rapidité et d'utilisation dans le cadre d'un jeu. Voilà, on est en train de travailler tout ça pour que ça soit hyper réactif, hyper rapide, et que du coup, ça soit vraiment un outil d'aide et non pas un outil qui va ralentir la partie.
On a une question de Damien aussi qui dit sur le chat, est-ce que vous faites les jeux d'échecs?
Oui, tout à fait. Alors, on fait... Là, pour le coup, il y a quelques jeux comme les jeux d'échecs, le Puissance 4, le Scrabble géant. C'est des jeux qu'on se fournit à droite, à gauche chez des fournisseurs qui le font. Et donc, on les distribue, nous, sur la boutique.
quand il y a des jeux où, il y a, où on fait appel à un sablier ou des choses comme ça, est-ce que c'est adaptable? Est-ce que c'est adapté? Ou comment ça se passe?
En fait, on a tellement le choix, comme je disais, il y a 1000 jeux de société qui sortent chaque année, que on fait une sélection, forcément, on regarde les sites spécialisés sur le jeu de société. D'ailleurs, en termes de déficience visuelle, si on se met à avoir le virus pour le jeu de société, c'est très très simple de se renseigner, parce qu'il y a aujourd'hui des web TV qui proposent des tas de règles en audio, etc. Enfin, en vidéo, mais du coup, qui sont quand même faciles à suivre en audio. Donc pour se renseigner sur les nouveautés, c'est assez simple. Et donc nous, c'est comme ça qu'on procède, en fait, pour voir si le jeu, on va pouvoir l'adapter, puisqu'il montre le matériel, on voit des parties, etc. Et bah, dès que je vois qu'il y a un jeu qui repose sur un temps limite ou sur des réflexes visuels, etc., on se dit, bon, bah, celui-là, on zappe. On va s'orienter vers un autre jeu quand on a le choix. On ne va pas essayer non plus, mordicus, d'aller adapter un jeu qui nous semble très, très compliqué à adapter.
Est-ce que les gens peuvent lire, consulter le catalogue sans nécessairement être adhérent, ne serait-ce que pour voir ce qui est disponible? Parce que là, en fait, on a plein de demandes de SKP, tel jeu. Bon, on ne peut pas tous les faire, d'abord parce que c'est beaucoup, et ensuite parce que tu les connais peut-être juste pas tous. Mais est-ce que l'accès au catalogue est public, à défaut de pouvoir acheter, puisque ça, j'ai bien compris que c'était réservé aux adhérents, mais au moins l'accès en consultation au catalogue?
Oui, alors c'est donc sur notre site accessijeux.com. Et en fait, dans la partie boutique, à chaque fois qu'on ajoute un jeu à la boutique, on tourne une vidéo, nous, où on montre le matériel qui est dans les boîtes et où on explique comment on l'a adapté. Parce que c'est quand même, selon les personnes, il y a des jeux qui vont... Bon, déjà, il faut que le jeu vous corresponde, hein, au niveau de... qui vous intéresse. Mais après, au niveau de votre déficience visuelle, de vos troubles associés, est-ce que j'ai des problèmes de mémoire? Est-ce que j'entends pas bien? Est-ce que j'ai des problèmes de sensibilité du toucher, etc., en fonction de mon âge, de plein de choses? Il y a des jeux qui vont correspondre à certains et des jeux qui ne vont pas correspondre à d'autres. Donc, nous, on encourage beaucoup les gens, avant d'acheter, vraiment à fouiller sur le site, à regarder les vidéos pour se dire si ça correspond vraiment à la personne à qui est destiné le jeu.
Comme j'aime bien faire en général pour nos invités, quelques chiffres peut-être juste très rapidement. Est-ce que le nombre de jeux, le nombre de volumes à peu près de bénéficiaires, des choses comme ça me paraît intéressant d'avoir
une petite idée. Un peu de statistiques.
Ouais. Ouais. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de jeux qui ont été adaptés. Enfin, pas adapté sur notre catalogue, en tout cas, qu'on propose. Donc, certains, comme j'expliquais, qui sont des jeux déjà adaptés, comme les échecs, le Puissance 4, etc., qu'on s'est débrouillé pour dénicher à droite à gauche. Mais donc, une cinquantaine de jeux proposés sur notre site. Aujourd'hui, on a une cinquantaine d'adhérents. On espère pouvoir augmenter un peu ce chiffre. Je pense que la ludothèque va clairement nous faire passer dans une autre dimension, parce que ben, on va avoir aussi des personnes valides, et donc en termes de ressources pour l'association, c'est vraiment très important. On a 1000 followers sur Facebook de tous les milieux, des ludothécaires, des gens du paramédical, des proches de déficients visuels, des éditeurs de jeux, voilà. Et voilà, donc 1200, un autre chiffre, 3-4 ludothèques qui sont adhérentes de chez nous et 1200 ludothèques à travers la France. Donc voilà, il nous reste du travail.
Alors, en tout cas, c'est un beau projet qui a beaucoup plu, hein, sur le chat, il a beaucoup plu. Bravo à vous.
Ravi.
Souhaitons-lui longue vie.
N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook, c'est là où il y a le plus d'interactions, parce que le site, c'est un peu statique.
Ils sont enthousiastes sur le chat, hein, c'est sûr.
Bon, oui. Bah, super.
Ça a mis du temps à venir, mais une fois que c'est venu, c'est...
Ouais, il y a eu tout plein de questions. Alors, il y a tout plein de questions sur des jeux, tout ça, mais bon, après, voilà.
Comme disait Jean-Philippe, ça donne envie de se mettre aux jeux de société. Hein.
Ce qui nous tient à cœur, c'est de rendre un loisir accessible. Parce que bah, nous, on sait très bien, tous autant qu'on est, bigleux que nous sommes, qu'on passe notre temps à perdre accès à des choses, à des loisirs notamment. Moi, j'aimais beaucoup jouer au ping-pong, et ben dommage, mais je peux plus. Et voilà, je pense que une des choses qui justifie l'engouement qu'il y a pour AccessiJeux, c'est qu'on redonne accès à un loisir à des personnes. Et donc je pense que c'est ce qui fait que ça marche aujourd'hui.
Adélaïde qui dit aussi qu'il lui a bien plu ce focus.
Ouais. C'est pas la seule.
Bah, en tout cas, Xavier, un grand merci à toi d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir parlé un petit peu de cette association qui, ma foi, fort sympathique au demeurant.
Écoute, moi, je suis toujours disponible. Franchement, on est dans une dynamique. Là, on est parti, on est dans les starting blocks. Même, enfin, on n'est plus dans les starting blocks.
Et bientôt le local en plus.
Et le premier jeudi de chaque mois, je ne l'ai pas dit, on fait la soirée jeu, c'est à la maison des associations du 12e. Le premier jeudi de chaque mois, de 18h à 22h.
Voilà. s'il y en a qui veulent aller faire un petit tour par, pour les Parisiens surtout.
Oui, mais après on espère se développer à d'autres villes, mais chaque chose en son temps.
Chaque chose en son temps. Et dans le Zoomcast aussi, chaque chose en son temps, donc on va passer à la dernière partie. Tu restes avec nous, Xavier ?
Je suis là, je ne bouge pas.
Ok, on y go.
Avec Edencast pour iPhone et iPad, bénéficiez de l'essentiel de nos actualités en mobilité. Rendez-vous sur l'App Store pour en profiter.
Allez, la dernière partie. Avant de revenir à cette dernière partie, où est-ce qu'il en est le sondage ? Est-ce qu'il a un peu évolué ou est-ce qu'il est resté à son stade de tout à l'heure ?
C'est une très bonne question. C'est une excellente question.
C'est une excellente question.
Qui va trouver une réponse dans quelques minutes le temps d'actualiser la page.
Personnellement, j'y répondrai bien, mais à chaque fois que Jean-Philippe dit qu'il y a une personne en plus qui a voté, chez moi, elle n'apparaît pas, même si j'actualise la page. Donc, je suis en course.
Alors évidemment, du coup, voilà. Mais en fait, continue, ça m'arrange.
J'y suis pour rien, là. J'ai beau rafraîchir, je suis toujours à 214 participants.
Ouais. Et non, je pense que c'est ça.
Non, on a fait le plein, je pense.
C'est vrai ? Non, alors je vais regarder, je revérifie, je suis désolé, je me suis perdu tout seul sur mon propre.
Allez, s'il y en a qui n'ont pas encore voté au sondage avant qu'on...
Toujours 214, hein, ça n'a pas bougé.
Ça n'a pas bougé.
Ah bon, bah alors c'est
et
bon.
Et on a dû faire le plein, à mon avis.
C'est pas mal déjà.
La quantité totale.
Bah de toute façon, là, on a carrément dépassé même l'ancien. Hein.
Ah oui.
De loin, même, de loin.
Ah bon, on était à 150, je crois,
quelque chose comme ça. À l'ancien, donc. Donc, du coup, on va enchaîner avec la dernière partie parce qu'on est
on est trop pressé.
Faut y aller, on est en retard, j'ai une saucisse qui m'attend.
Alors, on commence avec Juliette, tiens, pour son actu.
Eh bien, moi, je vais faire très très court, justement, donc ça arrangera l'horaire du Zoomcast. Ce n'est pas vraiment une actu, moi, c'est plutôt une incitation, on va dire ça comme ça. Je voulais juste rappeler aux gens de quand il y a des applications ou des choses qui ne sont pas accessibles, à ne surtout pas hésiter à contacter les développeurs pour qu'elles le soient, parce qu'il y a eu une petite anecdote bien sympa. J'avais parlé il y a quelques mois de l'application SNCF e-livre qui permettait de lire donc des ouvrages dans le train, qui d'ailleurs, soit dit en passant, est devenue gratuite alors qu'il y avait un abonnement avant. Et donc, dans la description de cette application, elle nous propose, très gentiment, bien sûr, des livres audio pour les personnes déficientes visuelles. Sauf que, du coup, ça m'a intéressée. Je me suis dit, je vais retester cette application qui était inaccessible au possible. Eh bien, figurez-vous que ça n'a pas changé. Donc, on a droit à avoir des livres accessibles, mais on ne peut pas les trouver. J'ai trouvé ça merveilleux. Donc, du coup, je me suis dit, autant rappeler qu'il faut vraiment aider les développeurs, entre guillemets, si on peut dire ça, aider pour contribuer à ce que ce soit plus accessible. Voilà.
Oui. Ah ouais. Ça nous laisse sans voix.
Oui, voilà. Je vois ça. Moi aussi, franchement, quand j'ai vu ça, ça m'a laissé de marbre.
C'est pas un hybride qui va vous dire le contraire. Hein, de toute façon. Bien sûr qu'il faut contacter les développeurs, bien sûr qu'il faut remonter les bugs. Et
bien sûr qu'il faut faire remonter un maximum. J'ai vu un message, non, parce que je regardais un message qui m'a un petit peu attiré mon attention. C'était un message de Quentin sur le chat qui disait: vous avez pas pris toutes les questions du chat.
Mais
en fait, il y en avait tellement que. Et puis il y en a qui se recoupaient un petit peu, tu vois, sur tel ou tel jeu, on va pas forcément.
Après, ils peuvent aller sur notre Facebook.
Et puis après, ils peuvent aller sur Facebook, dans le groupe de AccessiJeux. Puis nous, c'est surtout pour faire un focus global sur l'assaut, quoi. Parce que sinon, on est parti jusqu'à 23h, quoi.
Il nous a dit d'ailleurs, faites des podcasts plus longs, hein. Il nous l'a dit, Quentin.
J'essaie de faire un podcast qui soit assez court.
Justement, alors.
Allez,
justement, en suivant.
On continue avec Jean-Philippe, tiens, d'ailleurs.
Ah, c'est moi, tiens, évidemment. Tu alors, non, moi, je vais vous raconter.
À parler.
J'ai quand même trouvé une actu dans toute cette affaire-là. Ouais. L'actu que vous connaissez peut-être, d'ailleurs. Hein. J'espère que c'est pas déjà passé sur Redoncast, mais c'est possible. Wikispeak, ça vous parle ? C'est passé sur Handicap Zero il n'y a pas très très longtemps.
C'est le moteur de recherche de Wikipédia, non ?
Ouais,
enfin,
c'est
le,
ça.
Le truc de le moteur de synthèse vocale, pardon.
Ouais, c'est le moteur de synthèse vocale de Wikipédia. L'esprit, c'est...
J'avais publié un article sur Edencast il y a un an, à peu près.
Hein ?
J'avais publié un article dessus il y a à peu près un an sur Edencast.
Ça, justement, il y a eu quand même une évolution récente, là, maintenant. Effectivement, ça fait depuis 2011 hein, que ça a été développé. Et là, ça a pris forme, maintenant. Alors, il y a de très bons résultats, c'est-à-dire que l'outil fonctionne aujourd'hui très bien
notamment sur des langues comme l'anglais, le suédois, etc. Il y a encore du retard sur le français, mais c'est toujours plus difficile de faire des synthèses vocales en français. Et cet outil libre, évidemment, puisqu'on est sur un univers libre de Wikipédia, etc., eh bien, cet outil a pour vocation de permettre d'accéder à tous les articles vocalement pour les personnes dites empêchées de lire. Donc, ça n'inclut pas que la déficience visuelle. Et tout ça, c'est libre. Donc, on pourra peut-être même imaginer réutiliser des briques existantes pour d'autres usages, alors d'autres wikis, ça c'est déjà prévu par la fondation, mais des morceaux de synthèse vocale, pourquoi pas, pour d'autres logiciels, et ça pourrait faire des synthèses vocales et libres et de qualité, puisque malheureusement ça fait quand même cruellement défaut aujourd'hui. Donc voilà, mais voilà, donc tout ça pour dire que cette évolution est que ça a été enfin publié, ça commence à être opérationnel pour certains articles, et le projet est donc en train de prendre un nouvel essor. Voilà.
À toi, Meb, pour ton coup de cœur actuel.
Ouais. Actualité. Alors, vous savez que pour le dernier,
de faire court, s'il te plaît.
Oui, mais je vais faire très court. Oui, je vais faire court à ma façon. le dernier Zoomcast, je vous avais parlé donc d'une entreprise, enfin un éditeur qui s'appelait donc Isotope, et donc j'avais parlé de Neutron, ce plugin qui permet d'aider au mixage hein, dans une session Logic Pro ou peu importe avec une forme d'intelligence artificielle donc qui permet quand même de mettre le bon equalizer, le bon compresseur, le bon accelerator, etc. Et ça de manière intelligente puisqu'il analyse aussi les pistes qui sont voisines. Donc il fait pas n'importe quoi. Je l'ai testé, il est accessible sous Logic Pro. C'est absolument formidable, mais j'aurai l'occasion d'en reparler un jour. Et cette même société, pour compléter la chose, a développé aussi un logiciel, enfin un plugin aussi, qui s'appelle Ozone version 7 maintenant, qui lui se charge du mastering. Et donc, c'est l'étape ultime à la fin d'une composition, après le mixage, c'est le mastering. Et là, il suffit simplement de plugger donc, le logiciel sur sa sortie stéréo de sa console virtuelle. Et là, le travail ne se fait pas tout seul. Il faut quand même avoir des notions de mastering, mais quand même, il vous propose des presets. Et vu que je vais vous confirmer ça plus tard, mais vu que le Neutron est déjà accessible sous Logic, puisque le développement a été fait en Cocoa, le langage donc de programmation de Mac, il y a de grandes chances que Ozone 7 soit également accessible via VoiceOver. Je vous le confirme puisque je vais le tester. Donc Neutron, c'est OK. Et j'en reparlerai plus longuement, je pense, sur Edencast à l'occasion. Avec des tests et tout ça. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Edencast.fr.
Pour conclure ce Zoomcast numéro 11, les amis, on va revenir un petit peu sur ce sondage. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire déjà, le fait que la canne électronique soit plus haute qu'on l'aurait cru, d'ailleurs? Ça veut dire que quand même le chien guide, parce qu'à une époque quand même, le chien guide, il était, on va dire la canne blanche et le chien guide, ils étaient beaucoup plus plébiscités qu'aujourd'hui, on dirait. Ça décline, ou c'est juste...
Non, je pense pas.
Tu penses pas?
Ça a toujours été équilibré, le chien guide, hein. Ça a jamais été, ça stagne en fait, par contre. Oui, ça,
bah
stagne.
Oui, ça dépend des gens.
On dirait que ça décline un peu.
Ça décline.
Pour ça, il aurait fallu faire des études sur 15-20 ans pour voir l'évolution de tout ça.
Mais... Ce qu'il faut aussi bien se dire, c'est que toutes les pubs, en fait, elles n'ont pas vocation à augmenter le nombre d'utilisateurs de chien guide, mais à donner. Hein. C'est pour les dons. Hein. Donc ce n'est pas les pubs qu'il faut augmenter le nombre de chien guide, en fait. Hein. C'est les pubs qu'il faut augmenter le nombre de chiens remis, à la limite.
Ouais, oui, en fait, c'est pour récupérer de l'argent pour les.
Mais voilà, c'est surtout pour attirer mamie pour qu'elle donne. Hein. Un chien, c'est super, quoi. C'est parce que l'aveugle, évidemment, on s'en fout. Mais donc ça, c'est pas le problème. Mais c'est pas pour augmenter le nombre d'utilisateurs, qui, à mon avis, est assez stable. Hein. Je persiste que c'est stable. Et canne électronique, je pense qu'une des raisons de son succès, c'est aussi le fait que malgré tout, c'est un produit qui est donné gratuitement aux gens, souvent quand même.
Ouais, mais il y a
une contrepartie, pas toute.
L'Ultracan, elle n'est pas gratuite.
Elle n'est pas gratuite. Non.
Puis il y a une contrepartie, tu dois suivre une formation et être assidu, il y a des contrôles.
Ouais, pas pour l'Ultracan, il n'y en a pas. Mais
avec l'UltraCan, on est ultra libre.
Tu l'es ultra libre. Mais par contre, c'est ultra cher.
C'est leur slogan.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, non, mais c'est tout ultra.
Si c'est bien,
c'est pas grave. C'est tout ultra. Ouais. Ouais.
Faut juste que ça soit bien, c'est tout.
C'est, ah, mais c'est bien. Non, mais c'est... Moi, j'adore. Hein,
Pour moi, l'UltraCan, c'est la canne électronique façon Apple. Quoi. Tu la prends, d'accord. Tu l'utilises et tu sors. Et c'est parti. Pas besoin de formation, il n'y a rien.
Et c'est un peu cher, certes.
Non, je disais ça par rapport au fait que on avait des discussions avec des collègues et des connaissances qui disaient que certains d'entre eux disaient, mais moi, franchement, le jour où il y aura un robot guide, un robot qui sera capable de me guider, je laisse tomber le chien, quoi. Tu vois,
c'est ton projet, c'est ton projet.
Tu vois, il y en a qui disent ça. Hein, donc,
vous osez sortir ça. Avec après.
Non, non, mais ça dépend comment il fait.
Ça dépend comment il est le robot.
Oui, bien sûr. Ça
oui, puis la difficulté du chien, entre guillemets, qu'ont aussi des personnes qui ont un chien, c'est que bah, quand il n'est plus en âge de pouvoir guider la personne, il faut s'en séparer, quoi. Mm. Le robot, peut-être pas.
Ouais, mais c'est quand même, socialement, moi, je trouve que c'est un peu... ça peut être choquant d'avoir un robot qui va ressembler à quoi, on ne sait pas trop. Mais moi, je pense que déjà...
Ouais, tu sais, les Japonais, dorment bien avec des robots en poupée, alors, tu sais.
Ouais, mais on n'est pas au Japon, quoi.
Pour l'instant.
En tout cas,
il y a une chose qui fait plaisir dans ce sondage, c'est que finalement, l'aide humaine, entre guillemets, est en dernier, ce qui montre bien une bonne volonté d'indépendance.
Ça, c'est bien, c'est vrai. Mm-hmm. Mm. Ça, c'est vrai.
Sachez qu'il y a au moins deux projets étudiants ou jeunes, en tout cas de robots comme ça, qui pourraient être faisables. J'en parlais hier avec une des deux personnes qui le conçoit et qui me disait pourrait se concevoir entre un GPS qui est précis et des calculs suffisants pour qu'on arrive à couvrir un ensemble de situations comme les travaux ou des choses comme ça. Ça pourrait
être Quentin, Quentin qui dit qu'il faut s'occuper du chien. Perso, moi, ça me fait peur.
J'ai rencontré une jeune start-up qui est en train de travailler à développer des lunettes un peu façon Google Glass, spécialement pour déficients visuels qui pourraient décrire l'environnement, etc. Donc c'est pas un robot, mais ça serait un accessoire qui permettrait aussi d'avoir une description auditive de ce qu'il y a autour de nous. Du style, j'ai perdu mes clés, tu tournes la tête et il te dit, elles sont à droite sur le meuble. Donc il y a des choses en préparation, quoi.
Oui, il y a plein de projets dans ce sens.
Après, moi, je reste convaincu que le développement des outils de locomotion doivent reposer sur l'interface de vibration. Et moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger une source audio ou des bips, je ne sais pas quoi.
Tout à fait d'accord.
C'est trop dangereux, d'une part. Et puis, ça peut être beau sur le papier, mais dans la réalité, quand il y a un camion de poubelle qui est en train de reculer, etc., de toute façon, l'audio, vous ne l'entendrez plus.
Bah non.
Et le vibratile, par contre, vous l'aurez toujours. Et puis, des trajets à faire avec des bips dans tous les sens, plus le bruit extérieur, etc., ça induit une fatigue nerveuse qui est impressionnante. Et je pense que c'est, avant une journée de boulot, par exemple, je trouve que c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible.
Allez, avant de se quitter, je voulais faire un petit coucou à Valérie, qui apparemment, elle a eu des problèmes, Valérie, avec son Internet, et du coup, elle a raté une bonne partie de l'émission. Mais elle pourra l'écouter quand même en replay.
Excellent teasing.
Quand il sera publié, bien sûr. Donc voilà, c'est sur cette conclusion du sondage que s'achève cette émission, ce Zoomcast numéro 11. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté, d'avoir participé sur le chat, au sondage aussi, hein, tous ceux qui ont participé au sondage. Il y a eu beaucoup de monde, hein. Franchement, c'est chouette. On est à plus de 214, plus je ne m'attendais même pas qu'il y ait autant de gens. Et donc, c'est cool. Et puis, un grand merci également à tous les intervenants qui ont participé. Donc, Meb, Juliette, Jean-Philippe, ainsi que Xavier. Voilà.
Merci, prenez soin de vous et surtout, soyez sages pour 2017. Et bonne année encore.
Et, sinon, et bonne nuit.
Et sinon, je me demandais, est-ce qu'on se quitte en musique ou est-ce qu'on se quitte en silence?
Ah ouais, faisons une minute de silence pour le... Je sais pas quoi.
Oui, à l'occasion de... Voilà.
Voilà.
Attends, non mais... En fait, je pensais à Xavier parce que comme tout à l'heure, il parlait de la chanson du Bigleux, je me suis dit, ça serait peut-être sympa qu'on se quitte avec.
Parce que moi, je la connais pas, figurez-vous.
Moi non plus.
Je peux vous la mettre.
J'avoue, l'avoue.
Je peux vous la mettre si vous voulez.
C'est parti.
Qu'est-ce que t'en penses, Xavier? On la met ou on la met pas?
Allez, vas-y.
Attends.
Envoie la sauce.
Attends. Je vais la, faut que je la recherche.
pas sur YouTube parce que la version.
Non, t'inquiète pas, j'ai niveau du son. T'inquiète pas, j'ai une version studio.
Ah. Hop. Je la connais, elle est très très drôle.
Alors, hop.
Du coup, c'est Xavier qui la chante, c'est ça?
Ouais, ouais, tout à fait.
Ah, c'est un événement. Là. Je veux dire, ce soir, j'aurais vu le concepteur du salon et ouais. Le chanteur de la chanson.
Mais oui, que, t'as vu, il y a Quentin, il y a pas mal de monde là. Il y avait d'ailleurs un grand merci aussi au chatter, hein, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Hein, mais...
il y avait des nouveaux en plus encore. Il y a de plus en plus de nouveaux à chaque fois.
Ouais, il y a plein de gens.
Chaque Zoomcast, il y a des nouveaux.
Il y a plein d'inconnus, ouais, c'est vrai. En plus.
On arrive aux situations où tu dois trier en fait ce qui se dit. Et d'habitude, tu prends et puis voilà, ouais. C'est facile.
Alors, on se quitte avec la chanson du Bigle. C'est fort à propos d'ailleurs.
Hein, ah bah complètement. Bravo Xavier, du coup. Maintenant que j'ai des hauteurs devant moi, j'en profite. Hein.
Ouais, on te dit bravo Xavier pour cette chanson quand même, ma foi.
Ah ouais.
Merci.
Ceux qui croient que j'ai vraiment trop bu, qui se demandent ce qui va pas chez moi, car quand je me prends une poubelle dans la rue, je lui dis oh pardon, excusez-moi. Ah, ceux qui se demandent ce que j'ai fumé pour arriver à me payer ce poteau, y en avait qu'un et moi je me suis mangé, je dirais que j'ai pris un coup au judo. Ça vous étonne un peu que je sois bigleux, j'y vois pas, ça se voit pas forcément, si j'avais des lunettes ça serait pas mieux. Mais vous me croirez forcément le jour où je vais vous rentrer dedans. Ah, ceux qui croient que je suis mal poli, qui commencent à me mater de travers, parce que j'ai pas dit bonjour aujourd'hui aux gens que l'on m'a présenté hier. Ah, ceux qui croient que je suis intimide, car je ne vais pas parler avec eux, disons que j'aime pas trop me prendre un bide en disant salut Patrick à Mathieu. Ça vous étonne un peu que je sois bigleux, j'y vois pas, ça se voit pas forcément, si j'avais des lunettes ça serait pas mieux, mais vous me croirez forcément le jour où je vais vous rentrer dedans. Ah, tous ceux qui me croient homosexuel, ce que j'entends glousser comme des bouffons, car pour me promener dans les ruelles j'ai pas de chien en bras mais un garçon. Ah, ceux qui croient que je veux les agresser, ceux qui disent que j'ai de la merde dans les yeux, qui disent que j'aurais dû mieux regarder. Je pense que pour se cogner on est deux. Ça vous étonne un peu que je sois bigleux, j'y vois pas, ça se voit pas forcément, si j'avais des lunettes ça serait pas mieux, mais vous me croirez forcément le jour où je vais vous rentrer dedans. Ah, ceux qui croient que je mange comme un cochon, ceux qui ressentent comme un petit malaise quand pour attraper un bout de saucisson, je mets la main, oh merde, dans la mayonnaise. À ceux qui croient que je suis mal élevé, quand pour écraser une cigarette, plutôt que de viser le cendrier, je l'éteins dans une belle tartelette. Ça vous étonne un peu que je sois bigleux, j'y vois pas, ça se voit pas forcément, si j'avais les lunettes ça serait pas mieux, mais vous me croirez forcément le jour où je vais. Ça vous étonne un peu que je sois bigleux, j'y vois pas, ça se voit pas forcément, si j'avais des lunettes ça serait pas mieux, mais vous me croirez forcément le jour où je vais vous rentrer dedans.